Bonjour à tous, c'est Jésus. Hello, I'm Jesus. Donc, suite au reportage que j'ai entendu, je voulais donner quelques petites précisions quant à ce que j'avais dit précédemment. Donc, ces précisions, vous pouvez les retrouver dans l'évangile de mon pote Saint-Marc, en fait, qui a retranscrit assez fidèlement, je dois dire, mes paroles. Et je donnerai trois citations. Les voici. Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Première. Deuxième. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et enfin, la dernière, l'ultime. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. C'est une réponse que je fais à mon pote Pierre. Voilà, donc, qu'on arrête de dire des conneries en mon nom, soyez sympa, soyez cool. Voilà, et ben, à la prochaine, quand sera trop le bordel, peut-être, avec un peu de courage, je reviendrai un peu sonner les cloches. Salut.
Bonjour Daniel, c'est Ludo de Lyon. À propos du retour au pouvoir de Gaston Flosse à Tahiti et de la polémique qui l'entoure, je pense qu'il y aurait de quoi dire sur l'aspect véreux du personnage en questionnant les Tahitiens à son sujet. Il le surnomme d'ailleurs Monsieur 10% en raison des commissions qu'il se prend dans la poche sur chaque projet qui se monte à Tahiti. D'autre part, les subventions pour l'équipement versées par la France à la Polynésie sont dispatchées par le président. On trouve donc des petites îles de droite suréquipées et des îles de l'opposition, petites ou grandes, sans aucune infrastructure. Les subventions ne vont pas jusque-là. Quel est le regard porté par le gouvernement français sur la façon de dépenser ses subventions? La ministre de l'Outre-mer est-elle aussi sincère qu'elle en a l'air lorsqu'elle évoque le respect total de la loi dans les relations entre la France et la Polynésie? Quelle est l'implication du gouvernement français dans le retour au pouvoir de cet ami de toujours de notre cher président? Autant de questions qu'il serait jouissif de vous voir soulever dans votre émission. Mais ce n'est qu'une suggestion. J'aime beaucoup ce que vous faites.
Je vais te raconter une histoire pas drôle. C'est l'histoire pas drôle d'une radio de service public qui croyait être jamais assurée de garder tous ses auditeurs, et même d'en gagner. Ah oui, et alors? Alors la radio s'est dit qu'elle pouvait gagner de l'argent en passant de la pub, comme les radios privées. Et alors? Ben les auditeurs, ils en ont eu marre d'être matraqués par des messages débiles qui les prenaient pour des abrutis. Et alors? Alors ils ont éteint leur radio. C'est vraiment pas drôle, non.
Ici Georges Rouen. Les États-Unis sont le peuple le plus religieux de la Terre, mais aussi le plus guerrier et le plus corrompu. Et l'on étale sur la place publique les fornications du président. Le 11 septembre était peut-être un avertissement de Dieu. Qu'il fasse attention.
I'm John Kerry.
I'm George W. Bush. And I approve this message.
Eh oui, c'est peut-être un avertissement de Dieu. Et c'est sans doute comme ça que ça a été reçu en partie dans la région où nous nous trouvons et nous restons encore aujourd'hui en attendant le grand jour, c'est-à-dire mardi prochain, le jour des élections. On reste donc dans cette petite ville de Beckley, dans la Virginie occidentale, entre les bleus et les rouges, entre la tripe et la tronche. Cet état de West Virginia faisant partie des états qui hésitent, des états qui risquent de faire basculer les choses dans un sens ou dans l'autre, et ces choses-là, eh bien, nous concernent. Donc voilà où nous sommes aujourd'hui. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toutes les émissions de France Inter, merci, que j'écoute assez souvent, j'appelle de la Guadeloupe. Je crie un coup de gueule parce que la situation est très grave en Guadeloupe, hein, notamment pour Madame Samy, plus de 20 jours de grève, de la faim. Et la situation est très explosive aux alentours de tous les syndicats et qu'on crée des situations très 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 difficiles. Il y a des endroits qui se trouvent en Guadeloupe où se trouvent les Européens, que les Guadeloupéens n'ont même pas droit d'aller, de regarder, on les tabasse. Et en plus, c'est des policiers qui les tabassent. Vous voyez, la situation est très 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 grave. Moi, je dis que le gouvernement doit faire tout ce qu'il faut pour arrêter cette situation. Et notamment la situation de Madame Samy et le syndicat du GTG et tous les syndicats en général sont frappés de l'injustice. Nous, nous réclamons la justice. On n'a rien contre la justice. Merci.
Je tiens tout d'abord à remercier M. Daniel Mermet et son équipe de me donner la parole. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'ai acquis la certitude qu'après toutes ces années, j'ai conquis de haute lutte le droit à l'incapacité définitive la plus totale. Il vous faut bien réaliser que toutes mes tentatives d'activation dans quelques domaines, qu'ils soient économiques, sentimentaux, sociaux, se sont toutes avérées n'être que de vaines gesticulations destinées à vous faire perdre patience. Je viens moi-même vous annoncer que la mesure est dépassée. Aucun politicien, psychiatre, psychologue, quelques spécialistes du conseil en assistance aux personnes réticentes à se plier à l'usinage insensé que tout un chacun subit dès lors qu'il quitte le ventre de sa mère, ne saurait parvenir à redresser cette parcelle d'humanité qui a commencé à faire chier son monde dès l'instant où le matériel génétique nécessaire et néanmoins contingent à ma création fut réuni. Cependant, et ce, après m'être complaisamment laissé aller au désœuvrement le plus vil depuis de nombreuses années, j'ai constaté qu'il existe tout de même un domaine où j'excelle et qui consiste à faire l'idiot en toutes circonstances dès que la gravité s'installe. C'est pourquoi je viens publiquement, ici même, sur cette antenne, vous déclarer mon intention d'agir désormais en idiot professionnel afin de m'employer à accélérer le triomphe de la bêtise.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Guy Ventil en Virginie Occidentale. La tripe ou la tronche?
Flight number two. Arriving.
Jesus Christ.
A long-term peace in the world. That we work for.
Une chose très difficile, aujourd'hui serait de trouver un seul Français qui ignore qu'il y a des élections aux États-Unis mardi prochain. Que dis-je, un Français? Un habitant de cette planète a-t-il été épargné par cette information, par ces dossiers, par ces reportages, par ces analyses et par cette véritable indigestion d'informations sur cette question? Alors indigestion, oui et non, parce que c'est effectivement un enjeu très important. 206 millions de citoyens américains sont appelés à choisir entre Bush ou Kerry, entre la tripe et la tronche. Il faut rappeler que c'est pas le suffrage universel tout à fait comme chez nous. Aux États-Unis, on désigne des grands électeurs dans chaque État. Le nombre des grands électeurs dépend du nombre d'électeurs de l'État. C'est-à-dire que les grands États très peuplés ont beaucoup de grands électeurs. Et les petits États, comme la Virginie occidentale où nous sommes, ont seulement quelques représentants, et là en l'occurrence 5 représentants pour la Virginie occidentale. Et au total 532 grands électeurs seront désignés pour nommer le 44e président des États-Unis. Ça risque de pas se passer d'une manière aussi nette que ça. On n'est pas sûr du tout d'avoir des résultats clairs immédiatement. Ça risque de s'effilocher en bataille juridique, en contestation des résultats, tant les conditions, le déroulement des votes avec les systèmes de vote différents qui vont du papier qu'on glisse dans l'urne jusqu'à des systèmes électroniques extrêmement sophistiqués en passant par des systèmes de toutes sortes risque de compliquer beaucoup les choses et de susciter énormément de de réactions, des centaines, sinon des milliers d'avocats sont sur le coup. Donc ça risque de se prolonger un certain temps. Personne ne sait ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais en tous les cas, ce qui est passionnant pour nous, j'espère qu'aux prochaines échéances électorales en France, on aura la même acuité, la même liberté aussi de ton que nous avons actuellement. On est d'autant plus libre vis-à-vis de ce qui se passe aux États-Unis que nous sommes tous d'accord en France à 85%. Si les Français votaient mardi, ils voteraient pour Kerry. Mais c'est encourageant quand même pour ceux qui se présenteront aux prochaines élections présidentielles en 2007. Ils peuvent très bien avoir un bilan tout à fait catastrophique et tout à fait détestable et avoir toute leur chance. C'est le cas de Monsieur Bush. Vous pouvez avoir diminué les libertés politiques et civiques dans des proportions tout à fait ubuesques. Vous avez vos chances. Dégradation des conditions de vie des plus pauvres, vous avez quand même vos chances. Réforme fiscale profondément injuste en faveur des riches, vous avez quand même vos chances. 600 000 emplois perdu, oui, mais bon, c'est pas si grave que ça. Abandon de la politique de protection de l'environnement. On sait comment George Bush a refusé de signer le protocole de Kyoto et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais c'est pas si grave. Vous pouvez promettre ne pas le faire et évidemment. À voir, c'est ce qui nous a le plus frappé, peut-être, c'est la politique économique étrangère du gouvernement Bush, une politique complètement subordonnée aux intérêts des grandes entreprises de toutes sortes, pétrolières en particulier. Eh bien, ça non plus, ça ne vous empêche pas d'avoir toutes vos chances, et c'est le cas de George Bush. Alors, que se passera-t-il mardi? Il y a un dessin très drôle qui est sorti dans le International Herald Tribune et qui est reproduit dans un courrier de cette semaine. C'est un type qui hésite au moment de rentrer dans le bureau de vote et dans sa tête, sur son cerveau, il y a écrit Kerry et dans le ventre, au niveau de l'estomac, c'est écrit Bush. Alors, mardi, la tronche ou la tripe, c'est la question. President.
It's in the interest of...
It's in the interest of...
A long-term peace in the world.
Long-term peace in the world that we
work for a free and secure and peaceful Iraq.
And peaceful Iraq.
A peace, free, and secure Iraq.
In the midst of the Middle East,
we'll have enormous historical impact.
Toujours dans cette ville de Beckley, de la Virginie occidentale, une ville moyenne et dans un état modeste, un état pauvre même, où avec une tradition de mine, avec une tradition de sidérurgie, avec une tradition d'exploitation forestière. Et je vous l'ai dit, c'est un état qui traditionnellement votait démocrate, a toujours voté démocrate, qui a basculé aux élections de 2000. c'est-à-dire pour Bush. Et là, on ne sait pas dans quel sens va aller cet État qui fait partie des États indécis, même si selon certains sondages, le président actuel serait favori. Mais on voit comment ces sondages changent d'une heure sur l'autre, comment les résultats selon les instituts de sondage sont très très différents, toutes les magouilles, les pressions là dans les derniers jours, la pression évidemment et les manipulations sont absolument énormes. Et la plus grosse manipulation, évidemment, l'auditeur le disait tout à l'heure, c'est celle de Dieu. Oui, les églises ont un rôle très important qu'il faut peut-être pas exagérer partout aux États-Unis. C'est pas le même poids partout. Le poids est beaucoup plus important là où nous sommes, c'est-à-dire au début de la Bible Belt, c'est-à-dire des États du Sud où la religion et notamment les chrétiens évangéliques sont très importants. Faut pas exagérer le poids de cette religion elle-même. La religion reste le moyen de la politique, qu'elle soit de gauche, de droite, libérale ou sociale. Il faut pas oublier que dans les années 60, au temps des luttes pour les droits civiques, ces luttes ont été soutenues par des chrétiens blancs progressistes. Et longtemps, les courants religieux, surtout évangéliques dans les régions où nous sommes, ont voté démocrate. Et dans les années 70, l'électorat blanc populaire s'est senti peu à peu trahi par les démocrates qui se sont tournés vers les classes moyennes, et plus vers les villes et plus vers les élites. Et là où nous sommes, pour beaucoup, Kerry est vu comme quelqu'un qui, comme disait Tom Frank, qui mange des sushis, qui est très chic, qui, alors là, la chose la plus terrible, c'est qu'il parle français. Il a des amis français et il a un vélo qui coûte $8,000 et c'est quelqu'un de très riche, etc. Alors, il faut pas trop qu'on confonde, nous, démocrates et gauche, ou alors une certaine gauche en France, une gauche un peu caviar. Il faut bien comprendre tout ça et ce qui permet de sentir comment et pourquoi Bush, avec son populisme de marché, avec son populisme républicain, a fini par séduire et par plaire à une grande partie, j'espère pas la majorité, mais en tout cas une grande partie de ce public populaire, de cet électorat populaire. Alors, allons à l'église, allons à la First Baptist Church de Beckley. Beaucoup d'églises à Beckley, c'est une des régions et un des états, la Virginie occidentale, où il y a le plus d'églises par habitant. Et là, on a un pasteur qui nous attend, mais alors qui est formidable. Il est carré, il est blond, il a des yeux bleus, il est absolument impeccable. Il pourrait vous vendre des voitures neuves. Non, il vous vend Dieu.
Jesus.
Christ.
Mark Charade, Beckley, West Virginia.
Mark Charade de Beckley, en Virginie occidentale.
Et vous êtes le pasteur ici?
Yes, I am. I'm senior pastor here.
Oui, je suis le pasteur principal.
Et vous avez une grande église.
Thank you. We have about 900 members.
Oui, merci beaucoup. À peu près 900 membres qui viennent.
Mais là, vous êtes dans une région où il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a beaucoup d'églises ici.
Yes, this is in a highly churched area. There's more churches per capita in West Virginia than any other state in the United States.
La Virginie occidentale est l'état où il y a le plus d'églises par habitant que n'importe quel autre état des États-Unis.
Si Jésus était élu le 2 novembre, qu'est-ce qu'il ferait?
What would it do? Well, I think it would be obvious that he would stand for life, thou shalt not murder, and the Ten Commandments. Again, he would certainly stand for protecting life and would be against abortion.
Déjà, bien entendu, je pense qu'il serait contre l'avortement et pour la protection de la vie, puisqu'il est écrit dans les 10 commandements que tu ne tueras point.
Et la peine de mort, qu'est-ce qu'il dirait pour la peine de mort?
The death penalty was an Old Testament rule of grace, actually, because an eye for an eye, a tooth for a tooth, was as much so that someone would not be overpunished as someone would receive proper punishment.
La peine de mort est quand même, c'est inscrit, c'est un des traits de sortie de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, pour que quelqu'un ne soit pas puni trop, mais qu'il n'ait que ce qu'il mérite.
Qu'est-ce qu'il dirait sur l'homosexualité? Il serait hostile à l'homosexualité?
Leviticus 19 talks about that the homosexuality is an abomination to the Lord.
Dans le Lévitique 19, il est dit que l'homosexualité est une abomination pour le Seigneur.
Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, God created the male and female, and biblical descriptions of marriage did not allow for man to marry man or woman to marry woman.
Il écrit dans la Genèse que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent, et dans les écrits bibliques et dans les mariages tels qu'ils sont décrits dans la Bible, il n'est jamais question d'un homme qui se marie avec un homme ou d'une femme avec une femme.
Envoyez chez votre ami de la librairie chrétienne un petit panneau qui évoquait Satan. Alors je lui ai dit, mais est-ce que Satan existe pour vous? Il m'a dit, mais oui, oui, Satan existe. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous?
Yes, we teach a literal Satan does exist as the Bible would declare that.
Oui, on enseigne que Satan existe comme il est décrit dans la Bible.
Conservative Christians take the Bible to be more literal than they do allegorical or any other interpretation that would not give credence to those words being authoritative.
Les chrétiens conservateurs comme nous, nous croyons en une lecture littérale de la Bible. C'est pas des allégories ou des analogies qu'il faudrait prendre, c'est vraiment mot à mot qu'il faut prendre ça.
Vous voyez comme des fondamentalistes?
I would choose the word evangelical. Evangelical is different from fundamentalist in that we are more open to other views of Scripture.
Je dirais plutôt qu'on est évangéliste, c'est-à-dire que par rapport aux fondamentalistes, on est quand même plus ouvert à différentes interprétations, différentes lectures possibles.
I think that the moral issue is that Americans are voting for or not voting for biblical standards of morality in America.
Je pense que la question éthique, c'est quand même que les Américains vont voter ou ne pas voter, en tout cas, mais pour que la morale de la Bible devienne la morale dominante.
C'est-à-dire Bush.
Most likely,
right. Très probablement, oui.
Vous êtes combien aux États-Unis?
59 million evangelical Christians in America.
59 millions de chrétiens évangélistes aux États-Unis.
When you turn your heart and your life over to Christ, when you accept Christ as a savior, it changes your heart, it changes your life. Christ, Christ, Christ. They can pray for me, they can pray for my little girls, they can pray for my wife. They pray for our family. Christ.
Et alors, un autre point encore, le darwinisme, parce que ça, c'est quelque chose qui nous étonne beaucoup en France, c'est-à-dire la théorie de l'évolution et le darwinisme, ça, Jésus, s'il revenait, ou vous, en tout cas, vous êtes pour ou contre?
No, we Christians would, by and large, be against the teaching of evolution and Darwinism, right now in our public schools, they do teach evolution and do not teach creationism. That's why you've seen a growth in homeschooling in America in private schools.
Oui, les chrétiens, de manière générale, en Amérique, dans leur grande majorité, sont contre l'évolutionnisme, contre le darwinisme. Par contre, c'est ce qu'on apprend dans les écoles publiques. C'est pour ça que vous voyez aussi de plus en plus un mouvement aux États-Unis de formation scolaire qui est fait à la maison ou dans des écoles privées.
Ici, vous avez une centaine d'élèves. On a vu les élèves là qui attendaient leurs parents pour rentrer chez eux. Donc, ces enfants-là, on leur apprend le créationnisme et on leur dit que l'évolutionnisme, la théorie de Darwin, est fausse.
Right, exactly. People choose Christian schools for the extra teaching they get that they don't get in public school, such as creationism. God protects life and so forth, along with their regular academia.
Oui, c'est pour ça que les parents choisissent de mettre leurs enfants dans des écoles comme la nôtre, où il y a une centaine d'élèves, pour justement avoir une éducation chrétienne, où on leur apprend pas le darwinisme, mais le créationnisme, où on leur apprend à respecter la vie et à être contre l'avortement, et on leur apprend à vivre selon les valeurs chrétiennes de la Bible.
Voilà. Vous êtes d'accord avec tout ça, j'en suis absolument certain. Ce qu'on entend là, évidemment, c'est un processus de diversion. On nous a expliqué que les sujets concernant cette, cette élection suivent des ordres différents selon les milieux, selon les âges et selon les candidats. Les sondages indiquent par exemple que c'est d'abord la santé qui préoccupe le plus les Américains. Je rappelle, 45 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture santé. Par exemple, c'est l'emploi. Je citais tout à l'heure ce chiffre, cette augmentation considérable du chômage, sans parler des working poor, etc. Donc, les sondages indiquent que c'est bel et bien ces soucis-là qui hantent les Américains. Ils ne sont pas différents de nous, ces Américains. Or, c'est ces sujets-là, vous avez vu, qui viennent d'abord, c'est-à-dire le mariage gay, l'avortement, qui n'est pas une préoccupation de premier plan. Il y a 30 ans, plus de 30 ans que ces lois sont passées, font partie de la Constitution. La question de la prière à l'école, ce qu'on appelle, tout ça, ce sont des sujets qui relèvent de ce qu'on appelle les valeurs familiales, et on les met en avant, on s'arrange pour les mettre en avant, et les républicains essentiellement, pour que les vrais sujets de société passent au deuxième plan. Et puis alors, il y a cette aubaine, cette ficelle extraordinaire qui est le terrorisme. Et ça, c'est une, ça fait appel, on le voit, on l'a vu, on rencontre tout le temps un sentiment vague, flou, qui très souvent reprend la vieille hantise anticommuniste. L'anticommunisme a été aux États-Unis, vous le savez, une véritable religion d'État. On se souvient du macartisme. Et puis, bon, voilà, 89, la fin du communisme, l'effondrement du bloc de l'Est, et pendant des années une partie des penseurs des États-Unis ont cherché un nouvel adversaire, un nouvel ennemi, persuadés qu'ils sont qu'il faut un adversaire, qu'il faut un ennemi pour avoir une cohésion à l'intérieur de cet immense pays, et aussi le business. Rien ne vaut d'avoir un ennemi pour faire des bonnes affaires. Et donc, peu à peu, s'est installée la théorie de la guerre des civilisations, et puis de cette guerre préventive en Irak. Je simplifie un peu les choses, mais c'est quand même ça qui est présent dans les esprits, qui conduit à exploiter ce sentiment vague et terrible qu'est l'insécurité et le terrorisme, en exploitant sans cesse le drame du 11 septembre 2001.
For 40 years, since 1963 and probably before, we as Christians have quietly accepted the direction our country has gone in.
Ça fait 40 ans, probablement autour de 1963, que nous, en tant que chrétiens, on s'est tenus bien calmement, bien tranquillement, à accepter la tournure que prenait notre pays.
Which has allowed the liberal side of belief to become dominating.
Et ça a permis justement à tous ceux de la gauche de prendre le dessus.
And in the last 4 or 5 years, the Christians have decided that enough is enough, and we are starting to step up and say, you've gone too far, it's time to slow down and let's get perspective and balance back into our government.
Et ça fait 4-5 ans que les chrétiens ont dit assez, trop, c'est trop, vous êtes allés trop loin, et maintenant il faut faire en sorte que le gouvernement fasse machine arrière.
C'est ça. C'est, en fait, tout ça, c'est depuis 4-5 ans qu'il y a vraiment un soulèvement comme ça chrétien.
Yes. And it is nothing more than just issues revisited that we have all believed. We as Christians have believed these things from the time of Christ. It's a matter of just we have quietly sat in our living rooms.
On est resté tranquillement dans notre salon à regarder la télé. Et je pense que c'est des croyances qu'on avait fondamentalement en nous depuis l'époque du Christ, mais simplement c'était les remettre à jour.
And have allowed the change to take place without objection. And now we object.
On a laissé le monde changer, on a laissé toutes ces grandes transformations se faire sans rien objecter, et maintenant, si, on se réveille et on objecte.
Alors c'est pour ça que vous pouvez parler d'une révolution chrétienne, une révolution du Christ.
The revolution of Christianity. I guess you could call it a revolution.
Oui, on pourrait presque appeler ça une révolution, même si c'est très pacifique.
Jesus, Jesus, Jesus.
Christ, Christ, Christ.
This election seems to be very divisive. We had a civil war in 19th century over slavery issues, and now it's more of a moral civil war. It's two different opinions of America.
C'est vrai que cette élection-ci, c'est vraiment, c'est monté en épingle. Il y a eu aux États-Unis une guerre civile au 19e siècle. Et ce qui se passe peut-être aujourd'hui, c'est comme une guerre civile morale qui est en train d'élever contre l'autre deux différentes Amériques.
Une guerre civile morale.
Mm-hmm. We do have discussions and we are open-minded to understand that not only people but Christians look at things somewhat differently.
Bien sûr que nous avons des discussions et nous sommes très ouverts d'esprit à voir que non seulement les chrétiens mais les gens peuvent avoir différents points de vue.
This coming Saturday there is a church that's hosting Republican Democratic candidates to come in to debate their issues so that Christians can ask questions, moral questions of both sides, both parties, and then try to make up their mind.
Ce samedi, dans une des églises de la région, il va y avoir justement un espèce de débat avec un candidat démocrate et un candidat républicain. Et les gens vont pouvoir poser des questions justement pour savoir comment se positionner en termes de valeurs chrétiennes vis-à-vis des deux programmes, vis-à-vis des deux partis.
We also list every election, we have a voter's guide which has all the candidates and all parties and how they have voted on morality issues.
Et comme pour chaque élection, nous faisons une petite liste de tous les différents candidats pour tous les postes qui vont être pourvus, pour répertorier quels sont leurs points de vue, quelles sont leurs positions sur toutes ces questions morales.
La question morale, les questions morales, une guerre civile morale, selon ce pasteur Mark Charette de la First Baptist Church de Bakley, petite ville de la Virginie de l'Ouest. Voilà, c'est possible, on peut voir sans doute ces deux Amériques, tout le monde parle de ces deux Amériques. Bon, c'est sa vision des choses. On verra que pour ce qu'on appelle le big business, c'est-à-dire pour Wall Street, on est tranquille. Que ce soit l'un ou l'autre, ce sera le business comme d'habitude. Et Wall Street n'est pas du tout inquiet d'un éventuel changement. Donc, il faut bien comprendre que le candidat démocrate Kerry, comme auparavant Clinton, fait partie de la droite de la gauche, enfin de la droite des démocrates, en tout cas, qui est absolument aligné sur Wall Street, qui est absolument aligné sur la doctrine libérale, voire ultralibérale, ami altermondialiste, que votre détestation de Bush ne vous fourvoie pas, ne voyez pas dans Kerry un quelconque Che Guevara. On va au QG démocrate de la petite ville de Bakley. Je vous l'ai dit, il y a deux QG, hein, chaque bout de la ville. Il y a le QG des républicains et puis il y a le QG des démocrates. Et c'est dans celui-là que nous sommes.
Yeah, I would say that a lot of the pressure comes from the churches because they feel that to be morally correct, they would have to support Bush.
Et il y a aussi une très forte pression des églises locales où il y a une espèce de moralement correct qui voudrait que si on va à l'église, il faut qu'on vote pour Bush.
Mm-hmm. Now, for the first time, people come in to get bumper stickers that say, "I'm Democrat and Christian," because there is the view from the Republican that they're painting that you cannot be a Democrat and be a Christian.
Et maintenant, il y a des gens qui viennent pas mal beaucoup chercher des autocollants en disant je suis démocrate et chrétien, parce qu'il y a une pression très forte des républicains pour faire quoi qu'on pourrait pas voter pour Kerry et être un bon chrétien en même temps.
Yeah. Vous avez une église vous?
Yeah, I go to church. Yeah, Baptist.
Moi, je vais à l'église baptiste.
Yeah, yeah. My church don't preach. I mean, they for most of them for Democrats.
Mais moi, c'est une église où...
They don't preach against this sort of stuff. They preach the Bible, not that.
Ils prêchent la Bible. Ils sont des démocrates et ils racontent pas des histoires autour, quoi.
Ah bon, il y a des églises qui sont démocrates.
Yeah. Most of them, I don't know, say all of them is, I don't know.
Ah, je dis pas toutes, hein, mais en tout cas, la mienne, oui, la plupart des gens sont démocrates.
Yeah. Ok. Yeah. Vous voulez parler un peu, madame?
Pose-moi, monsieur. Avez-vous, mon français, très la petite?
Elle parle français.
Can you talk American?
Huh? Est-ce que tu sais parler américain, toi?
Non, just a little bit.
Yeah. You said we're headed to war in Iraq.
You said we're headed to war.
why you say that. I hope we're not headed to war in Iraq. First, we get to the side.
Alors, toujours avec les, là cette fois dans le QG démocrate, avec cette militante démocrate, volontaire, militante démocrate, Debrin, qui nous brosse un tableau de la Virginie, de, où nous sommes, de cet état où nous sommes, état pauvre, où l'on recrute beaucoup, beaucoup, beaucoup de chair à canon pour les gays en général et pour celle-ci en particulier.
In West Virginia, demographically, per capita, we send more people to the Army, to the services, than any other state in the Union, even though we have a very small population.
Même en Virginie occidentale, même si on a une petite population, même si on n'est pas très nombreux, je crois que c'est un peu plus d'1,5 million d'habitants, pas plus, on envoie plus de soldats à la guerre en Irak par habitant que n'importe quel autre État des États-Unis.
And there are two reasons for that.
Il y a deux raisons à ça.
One, because this state is very patriotic and we have a very independent viewpoint and many of us hunt, many of us are familiar with guns.
D'abord parce que c'est un état très patriotique où on a ce sentiment chevillé au corps et que beaucoup d'entre nous ont des armes, ou sont des chasseurs par exemple.
The second issue is poor kids go into the service, rich children go to college.
Et aussi le deuxième point, c'est parce que les pauvres vont faire leur service militaire, les enfants de riches vont à l'université.
I think there is only one congressman and no senators. None of their children are in Iraq. Send the Bush twins.
Je crois qu'il y a un seul congressiste et pas un seul sénateur dont les enfants sont en Irak. Il y en a un seul dont un enfant est en Irak.
Yes, and for what?
Et pas plus que les filles de George Bush. Et tout ça pourquoi?
Yeah, it's basically a revenge issue for him, and it's also to take the focus off of the economy. Iraq didn't attack us. All of the people that attacked us were Saudis.
Et c'est pourquoi Bush fait ça. C'est pour pouvoir prendre une revanche, et c'est aussi pour pouvoir détourner l'attention de la situation économique. C'est pas l'Irak qui nous a attaqués. La plupart des gens qui étaient dans les attentats du World Trade Center, c'était des Saoudiens.
I am very disappointed that. What this country was founded on is free speech. Now that if you dissent or you say that you don't support the war, even though you support the truth, you are considered unpatriotic and you are considered less than someone else. That is not correct.
Et ce qui pose un problème, c'est aussi dans ce pays de la liberté d'expression. Même si on est contre la guerre et même si on continue à soutenir les troupes, on dira que tu es moins que rien et que tu es antipatriotique.
We have had hundreds of thousands of Americans die for their right to speak our minds.
On a eu des centaines de milliers d'Américains qui sont morts pour le droit de pouvoir dire ce qu'ils pensaient.
Yes, the Patriot Act has eroded our civil liberties and no one is paying attention to that.
Et sinon, il y a aussi le Patriot Act qui a complètement mis à bas beaucoup de nos libertés publiques et ça, personne ne s'en rend compte encore.
And under the guise of keeping our country safe, we have lost a lot of liberties. Now someone can come into your home and take anything they want.
Au nom de ça, on a perdu beaucoup de libertés. Maintenant, les officiers peuvent venir chez vous, prendre ce qu'ils veulent, partir, pas vous dire qu'est-ce qu'ils vont en faire, quand est-ce qu'on va vous le rendre. On peut avoir un procès pour moins que rien.
And Benjamin Franklin, one of our great leaders in the 18th century, once said, I'll paraphrase this, that you trade a great deal of liberty for a few pieces of safety. And I think that's what we've done.
Et Benjamin Franklin disait à ce propos, on a vendu beaucoup de nos libertés pour un tout petit peu de sécurité. Et je crois que c'est ça qu'on est en train de faire.
Ah, la liberté contre la sécurité.
Yes, liberty versus security.
Alors voilà, ça c'est aussi au cœur du débat actuel aux États-Unis entre la liberté et la sécurité, entre la liberté et la justice. Mais c'est des valeurs que nous avons en commun. Il n'y a rien d'exotique quand on est aux États-Unis. Finalement, si on pense, on a évidemment parlé souvent de nos lumières, de nos 18e siècle. Nous sommes de la même histoire. Nous sommes du même les mêmes valeurs.
les mêmes problèmes, les mêmes l'ordre des valeurs nous hante les uns comme les autres, et entre les qu'est-ce qu'on met d'abord, l'égalité ou la liberté, la fraternité, d'accord, ça on a mis ça à la fin, mais la liberté ou l'égalité, c'est-à-dire où est-ce qu'on place la justice sociale en l'occurrence. C'est tout ça qui est présent à nouveau dans ce débat, dans un pays qui était considéré comme complètement léthargique, apolitique, apolitisé. Eh bien, il y a bel et bien un réveil politique de tous les côtés, que ce soit comme on l'entend là, de façon très raisonnée, très rationnelle, avec une indéniable compétence, ou de manière plus passionnelle, plus instinctive, plus sensible. C'est ça la démocratie, c'est que tout le monde vote, y compris les républicains, y compris ceux que nous rencontrons là, qui sont des personnages très importants, ce sont les vétérans. Les vétérans sont très respectés aux États-Unis, ils pèsent très lourd, on l'a vu avec les images que Kerry a données de lui au Vietnam, et la contestation autour de cette image et du rôle qu'il a joué au Vietnam. Et il y a cette fierté patriotique, I am proud to be an American, c'est très très important, au point que il y a une véritable religion de l'État. Hisser le drapeau américain devant sa maison, c'est quelque chose de très important. Personne ne plaisante vraiment sur le patriotisme et sur le sentiment patriotique aux États-Unis.
No, I've come here to get the thing. I'm working to help. I'm gonna help them to try to elect you.
Moi, je suis venu ici là pour QG des Républicains, pour prendre les papiers, pour pouvoir les aider.
Vous êtes un vétéran.
Veteran from Vietnam, and I got out of Vietnam in 67.
Ouais, je suis vétéran du Vietnam. J'étais en 67. Je suis revenu en 67.
Ah. Vous êtes démocrate. Vous êtes vétéran. Et vous ne pouvez pas voter pour Kerry à cause du Vietnam, je ne comprends pas.
I've been a Democrat for 37 years.
Ça fait 37 ans que je suis démocrate.
I was in the service and I voted for Carter.
J'ai voté pour Jimmy Carter.
I voted against Reagan both times.
J'ai voté contre Reagan à deux reprises.
When I was in Vietnam, when I got out, I remember the two main things I remember besides Vietnam was John Kerry and the meeting thing he had, and Jane Fonda. Those are two main things.
Et j'ai deux souvenirs que j'ai quand je suis revenu du Vietnam. C'est John Kerry qui participait aux manifestations en disant qu'en tant que vétéran, il était contre la guerre, et Jane Fonda qui était allée en Vietnam du Nord contre la guerre aussi.
Ah. And I was wounded twice in Vietnam.
Et j'ai été blessé à deux reprises au Vietnam.
And I lost my right eye. I'm deaf and this ear.
J'ai perdu l'œil droit, je suis sourd de l'oreille droite aussi.
And I'm 100% service connected disability from the VA right now.
Et j'ai 100% d'incapacité depuis la guerre du Vietnam.
Voilà donc comment un démocrate va voter républicain.
I've not only voted for Republican this time, I've changed my affiliate to Republican Party.
Non seulement j'ai voté pour les républicains cette fois-ci, mais maintenant je vais m'inscrire au Parti républicain.
Ah, c'est un retournement complet.
Well, not my mind. It's the same mind I've always had. It's just that I see too much phoniness in, you know, it's look back all the way to John F. Kennedy. That's the same stuff. They're going to do everything for the welfare people, they're going to do everything for the people on Social Security.
Mais c'est pas que j'ai changé d'esprit, mais c'est pas que j'ai changé ma tête, mais c'est juste j'en ai marre, quoi. Quand on regarde par exemple à l'époque de John Kennedy, ils avaient tout donné pour les gens assistés, pour les gens qui aient la couverture sociale, pour les gens qui aient une retraite, et tout prendre aux riches pour donner aux pauvres. Mais en même temps, maintenant, je me rends compte qu'il faut qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des classes moyennes, et il faut qu'il y ait des pauvres.
I'm George W. Bush, and I approve this message.
Et bien sûr qu'il approuve this message. Bien sûr qu'il approuve this message. Notre W. On retourne chez les démocrates où l'ambiance est un petit peu, ce soir-là, un petit peu molle. Ils sont un petit peu fatigués. Ils se demandent vraiment s'ils vont y arriver. Et il y a comme un blues chez les démocrates. Dans l'électorat, Kerry, quel est le pourcentage de ceux qui vont voter contre Bush? Et le pourcentage de ceux qui vont voter pour Kerry.
I think in the beginning it's anyone but Bush, and then as they learn more who Kerry is, it becomes more embracing Kerry. That was my personal experience also.
Moi, en tout cas, comme beaucoup de gens, je pense à l'origine, bien sûr, c'était avant tout contre Bush. Mais au fur et à mesure que la campagne avance et qu'il développe ses thèmes, on commence quand même à trouver des terrains d'entente avec Kerry.
Et puis il vous faut de la foi pour tenir, parce que vous
Vous militez beaucoup, vous vous engagez beaucoup. Il faut quand même croire à quelque chose.
Yes, yes.
Mais Thierry, c'est quand même pas Che Guevara.
No. My point is not that he's not still a rich white man, but that compared to Bush, who has never left that bubble, he has at least experienced other people's view of the world.
Bon, c'est vrai que, par exemple, Bush n'est jamais sorti de sa bulle, la bulle dont il est issu, le monde dont il vient. Tandis que Kerry, quand il était au Sénat, il a passé des lois pour défendre les infirmières, par exemple, qui devaient travailler très longtemps, et il est allé au contact de la société.
But yes, it's a problem also because our country is, what is the word? Capitalistic. And so now with the corporations and the money, that's what you find in politics, I think.
Mais c'est vrai qu'en même temps, notre monde est, so it comment is, dire le mot, notre société d'Amérique est un pays capitaliste. Et c'est ça quand même qui détermine la marche à suivre avec toutes ces grandes compagnies, tous ces grands groupes qui financent les campagnes et qui donnent le ton.
Est-ce que tu ne crois pas qu'en fait, les gens modestes, les ouvriers, les exclus, tous ceux qui n'ont pas de couverture sociale, etc. aux États-Unis, qui sont quand même très nombreux, est-ce que tu ne crois pas qu'ils se sont sentis aussi, eux, abandonnés par les démocrates ?
Yes, we're not happy with the direction that's taken from leaving the working people, and it's frightening how many working people are going to vote for Bush because of the morals when they have no health care, they are losing their jobs. You know, so it's very frightening time for us.
On est, c'est une période qui nous fait peur, c'est des temps vraiment inquiétants, et c'est pour ça qu'on se bat aussi, et parce que dans notre pays où beaucoup de ceux qui sont pauvres et qui ont plus besoin de l'aide, de la couverture médicale, de la couverture santé, eh ben, ils risquent de voter pour Bush quand même.
C'est ça qui est terrible.
It feels really like people have been hypnotized.
C'est comme s'ils avaient été hypnotisés, c'est vraiment ça.
And one more thing, I'll say that in this election, there are volunteers that I work with that have never voted before in their life, they're in their 40s, and they're volunteering for a campaign.
Et une chose encore que je veux dire, c'est que là, dans cette campagne-ci, il y a d'autres volontaires qui sont avec moi, qui ont 40 ans passés, qui n'avaient jamais voté de leur vie auparavant. Et cette fois-ci, ils sont engagés dans la campagne pour Kerry.
Il y a une repolitisation des États-Unis. Ça, c'est déjà une chose qu'on peut constater.
Finally.
Enfin, oui.
Merci, Monsieur Bush.
Thank you, Mr. Bush. Touché, Mr. Bush.
Repolitisation, guerre civile morale, deux Amériques, une bleue, une rouge. On retourne une dernière fois aujourd'hui du côté des républicains, où quand même il semblerait qu'il puisse y avoir quelques accommodements. Dis donc, ça ne devrait pas être facile le climat en ce moment ici à Beckley, entre les uns et les autres. Est-ce que vous arrivez encore à vous parler entre vous?
Well, the majority of my family is supporting President Bush and the Republican Party. We do have some acquaintances that still had their views about the Democrats, and I like your sign, what it says here, another Democrat for Bush.
La plupart de ma famille, déjà, ma famille proche, ils sont tous des républicains. Mais c'est vrai qu'on connaît quelques personnes, on a des acquaintances qui sont démocrates, et c'est pour ça que je suis venu chercher cet autocollant qui est ici. C'est un nouveau démocrate qui vote Bush.
This sticker, my wife has a very dear friend. She's a full-hearted Democrat. So my wife is trying to persuade her about the Republican Party and what the principles of the Republican Party is.
Oui, par exemple, cet autocollant, c'est pour une copine de ma femme, parce que ma femme, elle est républicaine, et cette copine-là, elle est fondamentalement démocrate. Et ma femme essaye de la convaincre et de lui montrer ce que c'est que les républicains, qu'est-ce que c'est que le parti républicain. Donc j'ai pris cet autocollant, un autre démocrate qui vote pour Bush.
But we're going to try to persuade her this election.
Oui, mais cette fois-ci, on va essayer de la convaincre.
Yeah, we have a little humor about it, but you know, everybody's got their views. That's why it's called America. That's why this democracy is all about.
Mais vous savez, voilà, tout le monde a un point de vue différent, et c'est ça l'Amérique, c'est ça la démocratie.
Tant que c'est pas la guerre entre vous.
We don't go that far.
On va pas si loin.
Vous êtes une grande démocratie.
Yes.
Même si elle est républicaine.
Oh yes. Beautiful.
Ça c'est vrai.
Voilà, merci à tous. Merci à Debrin, Editon, Jessica, Brian, Denny, Mike Tiner de la Christian Bookstore. Et au pasteur Marc Schreid, merci aussi à Thomas Cantaloupe et à Marc Crépin, reporter et traduction Guy Vanquetil. Que fait Pascal Pascariello ce soir? Eh ben, elle va voir le film de Myriam Tonelotto, Lobbying au-delà de l'enveloppe au cinéma de la Clé dans le 5e à 20h à Paris. Comment le lobbying devient plus dangereux que la corruption? Et vous avez des tas d'informations sur ce film à www.voiragir.org. Technique aujourd'hui Patrick Henry et Romain Luquien, Yann Chouquet. C'est la musique. Raphaël Moutère des Dilatébi, c'est le montage. Christophe Imbert, c'est le répondeur. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain à 17h pour la base si j'y suis, toujours aux États-Unis, toujours en Virginie. Et là, il manquait quelque chose. Les trois obsessions de nos amis, c'est God, Guns and Gays. Et demain, c'est Guns. Demain, on tire. Dans un instant, après la réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Mais auparavant, une bonne louche de réclame.